Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous. Bienvenue encore une fois dans ce bulletin d'information. L'Éthiopien Tamirat Tola a remporté ce dimanche le marathon de New York en 2h04 58 secondes, nouveau record de la course américaine, parti avec le meilleur temps des engagés après les forfaits des favoris kényans Evans Chebet et Geoffrey Kamworor. Il a pris les devants pour faire la seconde partie de la course seul en tête. Tola bat par la même occasion le record du plus célèbre marathon du monde qui tenait depuis 2011. Tamirat Tola, champion du monde sur la distance à Eugene en 2022, n'avait pas pu défendre son titre à Budapest cet été, contraint à l'abandon en raison de problèmes d'estomac. Et dans la catégorie des dames, la Kenyane Hellen Obiri a remporté le marathon de New York en 2h27 minutes et 23 secondes. Les femmes sont parties sur des bases très lentes avant d'accélérer brutalement au 35e kilomètre. C'est finalement Obiri qui a devancé au sprint l'Éthiopienne Letesem Pet Gide à 6 secondes et la Kenyane Sharon Lokedi à 10 secondes qui avait gagné à New York l'année dernière. À 33 ans, Obiri s'offre sa seconde victoire dans un marathon cette année, et non après ses débuts sur la distance et 7 mois après sa victoire au marathon de Boston. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a tenté d'obtenir ce dimanche lors d'étapes en Cisjordanie, puis à Chypre, des avancées sur le sort de la population de Gaza prise au piège de la guerre qui fait rage depuis près d'un mois entre Israël et le Hamas. Mahmoud Abbas a dénoncé devant le secrétaire d'État américain la guerre de génocide menée selon lui par Israël à Gaza. Le secrétaire d'État américain a mis en garde contre le déplacement forcé des civils palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza où Israël poursuit son offensive. Selon son porte-parole, Anthony Blinken a réaffirmé l'engagement des États-Unis pour la livraison d'une aide humanitaire vitale et la reprise des services essentiels à Gaza. Et Mahmoud Abbas a lié dimanche son retour à Gaza à l'issue de la guerre, évoquée par Washington, à un règlement politique qui engloberait aussi la Cisjordanie et Jérusalem-Est occupées. Une association de défense des droits humains au Burkina Faso a dénoncé ce dimanche une réquisition massive et ciblée de citoyens critiques du pouvoir pour la lutte anti-djihadiste opérée par les autorités militaires appliquant un décret portant mobilisation générale adopté en avril. Ces réquisitions opérées par le régime militaire au pouvoir concernent pour l'essentiel des membres du collectif d'organisations syndicales et de la société civile ayant annoncé la tenue d'un meeting le 31 octobre dernier à la Bourse du Travail de Ouagadougou, ainsi que des journalistes, leaders d'opinion et hommes politiques critiques sur la gestion actuelle des affaires du pays, précise le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Une quinzaine de syndicats réunis au sein de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB, avaient lancé un appel à se rassembler fin octobre pour dénoncer des restrictions de liberté, une manifestation finalement interdite par la mairie de la capitale de Burkinabé qui invoquait le contexte sécuritaire. Par ailleurs, plusieurs cas d'enlèvement ont été rapportés ces derniers mois par des sources locales à Ouagadougou. La France augmentera son soutien à la CEDEAO pour restaurer la démocratie dans cette région frappée par de récents coups d'État, a déclaré vendredi la ministre française des Affaires étrangères à Abuja. Catherine Colonna était en visite au Nigeria, qui assure actuellement la présidence de la CEDEAO pour discuter de la coopération bilatérale et de la sécurité régionale à l'heure où l'insécurité au Sahel s'aggrave. La France a mis fin à ses opérations militaires anti-djihadistes au Mali et au Burkina Faso et a récemment commencé à retirer ses troupes du Niger. Avant de clore ce bulletin d'information, la marine française a saisi samedi matin au large de l'Afrique de l'Ouest 885 kg de cocaïne sur un bateau de pêche en provenance d'Amérique latine.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous, Lionel Manirakahima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la Toussaint. La Toussaint est une fête religieuse célébrée le 1er novembre dans la tradition catholique. Elle est dédiée à la commémoration de tous les saints, connus et inconnus, de toutes les races, langues et nations. C'est un jour où les catholiques honorent la mémoire des défunts. Il est courant de visiter les tombes de proches décédés et de rendre hommage à leur mémoire pendant la Toussaint. Pour en parler, nous sommes avec le père Jean-Baptiste Mukiyehe. Il était curé de la paroisse Kabuga dans le diocèse de Kigali au Rwanda. Père Jean-Baptiste, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Je souligne que vous êtes également de la congrégation Saint-Vincent Palotti.
Communément appelé les Palotins, à partir justement du nom de notre fondateur, Saint-Vincent Palotti, oui.
Qui était-il?
Alors, Saint-Vincent Palotti, prêtre italien, né en 1795, il meurt en 1850. Et il fonde donc la Société de l'Apostolat catholique, entre autres fondations, qui étaient là pour aider l'Église à raviver la foi et à rallumer la force de la charité dans le monde. Parce qu'à ce temps-là, et à partir même de la Révolution française, tous les événements qui s'en suivront, l'Église avait besoin de ce grand renouveau. Donc c'est ça, nous nous inscrivons dans ce grand contexte de renouveau du 19e siècle.
Et qui rentre dans le contexte de la Toussaint, on va le voir tout à l'heure. Nous sommes également avec le père Gérald Murray, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York, professeur de droit canonique. Père Murray, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. Je vais commencer avec vous, Père Mouret. La Toussaint, on célèbre les saints. Les saints sont-ils des êtres parfaits ou sans péché?
Non, l'unique sans péché, c'est Jésus et sa Sainte Mère Marie. Mais tous les hommes, nous sommes des pécheurs, alors nous avons besoin d'être pardonnés. Mais les saints, ce sont ceux qui étaient pardonnés par Dieu. Et à la fin de leur vie, ils ont reçu le don de la vie éternelle. Alors nous fêtons ceux qui sont dans la présence de Dieu, qui voient Dieu face à face. Ils ont cette grâce d'accomplir dans leur vie éternelle le propos, le but de l'existence humaine, c'est d'être uni à Dieu. Alors ce jour-là, nous fêtons ceux qui sont canonisés, comme Saint Vincent Palotin, que nous écoutons son histoire, mais il y a beaucoup de saints inconnus. Tous les gens qui sont avec Dieu maintenant au ciel, ils sont des saints, même pas connus par nous, mais Dieu connaît tout ce monde et nous allons fêter ces hommes et ces femmes avec les grandes célébrations de la messe, de la liturgie. Et vous mentionnez aussi la visite au tombe des défunts, c'est en connexion avec demain, c'est le jour de tous les âmes, que nous prions pour tous les gens qui sont décédés, qu'ils soient au purgatoire, ils ont besoin de nos prières.
Et vous allumez des bougies aussi?
Oui, bien sûr, des bougies. Une chose, c'est dans le monde catholique, on offre les messes en honneur des saints. Il y a beaucoup de saints qui sont nommés dans le calendrier liturgique. Mais ce n'est pas possible de mettre tous les noms de tous les saints sur le calendrier. Alors, ce jour-là, sont regroupés tous les gens qui sont avec Dieu. Et ça nous rappelle que l'Église, à la fois, c'est une famille unie, parce que tous les gens baptisés, nous sommes une famille de Dieu. Mais pour le moment, il y a cette séparation entre ceux qui sont avec Dieu au ciel, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont au purgatoire. Alors, ce jour-là que nous fêtons le Toussaint, nous sommes tous unis avec cette joie de dire « Ceux qui sont au ciel sont nos amis qui prient pour nous et nous voudrions les rejoindre un jour, si Dieu permet, au moment de notre mort, de nous accueillir au ciel.
Vous parlez de la famille, vous êtes curé de la paroisse Sainte-Famille, est-ce que ça a une relation?
Oui, bon, on voit que la famille, c'est la cellule basique de toute l'existence, tout se commence avec Adam et Ève, mais dans l'Église, on dit que nous sommes Dieu et notre Père, notre Mère, c'est Sainte Marie, la Vierge, et nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, cette relation de famille est très importante parce que nous ne sommes pas des inconnus les uns les autres. Même si nous n'avons pas une connaissance personnelle de tout le monde, nous sommes en famille avec eux. Et ce jour-là, nous disons au Saint qui au ciel, priez pour nous que nous soyons un jour avec vous au ciel devant le bon Dieu.
Père Jean-Baptiste, la famille, c'est important en Afrique, c'est essentiel. Lors de la Toussaint, on partage un repas en famille.
Et c'est très important parce que même la famille prenant son accord de ce grand mystère de notre communion avec Dieu, comme le professeur vient de le dire, nous sommes aussi appelés à grandir dans cette famille, à nous renouveler constamment et à vivre notre marche vers la sainteté. Alors, comme une fête, bien sûr, la Toussaint est toujours célébrée en commémoration de toutes ces personnes qui ont pris au sérieux leur foi, mais on comprendra bien que la famille a eu une grande part dans leur croissance. Et c'est toujours une vérité qu'on ne peut pas contester. Qui a une bonne famille a un sol fertile dans lequel il plonge profondément ses racines de la foi. Et donc en Afrique, cela est à la fois en fait un défi aujourd'hui, mais en même temps une opportunité parce que tout compte fait, les grandes orientations et de la préférence à la famille, ou disons, les grandes valeurs familiales restent au centre de la croissance de chaque individu et des communautés. Donc il y a toujours ce grand lien entre la croissance dans la foi et vers la sainteté, donc, et l'existence de la famille comme espace d'épanouissement personnel et de nouvelles expériences tout aussi bien humaines que spirituelles.
Alors, c'est aussi la célébration de la foi, comme vous venez de le dire. Et la Toussaint renforce donc la foi. Est-ce pour rappeler que la sainteté est accessible à tous, Père Jean-Baptiste?
C'est là justement, comme le pape François le dit si bien, aujourd'hui nous célébrons la foi de là qui l'ont prise au sérieux, mais ce sont les gens accessibles, ordinaires, comme toi et moi. Ce sont des personnes de la porte d'à côté, comme le pape les appelle. C'est pour dire tout simplement que c'est une marche vers quelque chose d'accessible à laquelle, en fait, on est tous appelés comme baptisés et qui doit constituer le moteur même de nos grandes motivations. Et ce n'est pas des personnes exceptionnelles qui deviennent saints ou saintes, ce sont des personnes ordinaires qui naviguent l'océan ordinaire de l'existence avec leur foi, en gardant la force de leur espérance et en faisant preuve de leur amour au milieu de leurs frères et sœurs. Donc nous sommes tous capables de la sainteté.
Père Mouret, la manière de célébrer la Toussaint peut varier en fonction des traditions locales et des croyances personnelles. Est-ce que l'objectif principal reste le même?
Oui, parce que l'idée c'est que dans cette grande famille de l'Église catholique, tout le monde est uni par la prière et par l'amour avec ceux qui sont décédés et qui sont au ciel avec Dieu. Et nous voudrions alors reconnaître leur présence parmi nous par la grâce de Dieu. Aussi, on doit rappeler ce qu'ils ont vécu dans leur vie, parce que l'exemple des saints nous donne en esprit, en élan de suivre leur pas, parce que, comme dit le Père, les saints ne sont pas des gens qui sont hors de contact avec nous, et pendant leur vie, ils ont vécu leur vie ordinaire avec un esprit de sacrifice et de désir de plaire à Dieu et de faire du bien pour leurs frères et sœurs. Alors, dans notre paroisse, nous avons fêté la messe, nous avons haute messe ce soir avec les enfants de catéchisme, et le message que nous partageons, c'est que dans notre famille, il y a beaucoup de joie, parce que les saints qui sont avec Dieu, c'est un témoignage que aussi nous pouvons être avec Dieu à la fin de nos vies si nous suivons leur exemple.
Père Jean-Baptiste, que faire pour véhiculer vraiment l'importance de la Toussaint?
Alors, nous nous inscrivons ici dans une tradition, et donc ce que moi j'appelle le pèlerinage chrétien, c'est cette forme de voyage, si on peut le dire, à travers l'histoire. Et il y a eu beaucoup de générations se succéder, de génération en génération justement. Et nous sommes très heureux d'avoir ces personnes qui sont connues et d'autres qui ne sont peut-être pas connues, mais qui nous disent que nous pouvons revisiter leur héritage, leur inspiration, et même compter sur leur intercession pour emprunter, on peut dire, leur pas. Et c'est possible de réapprendre de leur exemple et de fortifier notre propre marche aujourd'hui. Alors, je crois que dans les célébrations qui ont eu lieu aujourd'hui, et qui, dans beaucoup d'autres coins, continueront à avoir lieu, je pense particulièrement à des célébrations du dimanche dans certains diocèses du Rwanda et du Burundi, probablement, il y aura un temps de revenir sur ce don de la sainteté. Parce que si on a été baptisé, on a été incorporé à la vie du Christ même pour un objectif. L'objectif, ça se résume à ce terme très simple, renouveler à nous la vie de Dieu pour utiliser cette même vie de Dieu et transformer le monde. Et c'est une manière de dire, nous sommes en train d'ériger, de construire le royaume de Dieu à partir de cet appel, à partir de ce premier pas que nous avons amorcé le jour de notre baptême. Et c'est très important et c'est central. On ne peut pas continuer la vie chrétienne avec plus d'aisance, avec plus de motivation, sans savoir d'où elle vient et où elle nous mène. Nous venons de ce grand appel du don du baptême à partager la vie de Dieu. Nous cheminons dans la vie aujourd'hui pour propager cette même vie et la vivre au quotidien. Et nous espérons un jour compléter notre pèlerinage avec le Seigneur quand notre démarche ici sur terre aura pris fin. Donc c'est cela qu'il faut rappeler, et c'est possible à travers certainement les sermons ici et là, des réflexions qu'on peut donner même en dehors de la messe. C'est très important de savoir aussi encore regarder des personnes que nous connaissons et ces personnes qui font la différence, motivés par leur foi et leur vie dans l'Église.
Père Mouret, l'Église fait mémoire de Pierre, Paul, Jacques. Jacques, c'est aussi un collègue à moi ici à la Voix de l'Amérique que je salue. Il y a Jean, Bakita, Kizito, Luanga, parce qu'ils ont été des témoins, n'est-ce pas? Voudriez-vous expliquer le mot témoin dans ce contexte? Père Mouret? Père Mouret, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vais poser peut-être cette question au Père Jean-Baptiste. Père Jean-Baptiste,
je suis là.
Oui, un témoin. C'est
oui.
qui
Alors, je vais essayer de brosser en gros ce que veut dire le témoin. D'abord, le témoin, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Donc, qui a, comme l'apôtre le dira, ce que nous avons vu de nos yeux, touché de nos doigts. En fait, et avoir fait une expérience du Christ et puis bien vouloir porter cette grande connaissance, cette expérience à la connaissance des autres. Donc on témoigne par la parole, on témoigne par une vie véritablement vécue en conformité avec ce qu'on a vu et auprès du Seigneur. Et même quelquefois, la force du témoignage peut nous porter et au plus haut niveau de verser notre sang. Parce que justement le témoignage de notre foi le demande. C'est le cas de ces saints que vous avez évoqués, certains de ces saints là. Quand vous pensez à Pierre, à Paul, ces gens étaient constituent les fondations apostoliques de l'Église, bien sûr. Quand vous pensez à leur fin de vie, ce sont des personnes qui n'ont pas eu peur de donner leur vie pour le Christ auquel ils portaient cette grande attention et tout le sens de la vie, de leur vie, tourné autour de cette proclamation et qui ce Christ était pour le monde et au milieu d'eux, à travers ces personnes. Si vous allez dans la vie des personnes comme Kizito, Charles Lwanga et ses compagnons en Ouganda, Bakita au Soudan, vous vous rendez compte que ce sont des personnes, par exemple les martyrs de l'Ouganda, ils ont accepté de verser leur sang parce que à ce moment-là, leur foi le requérait. Mais deux fois, on n'a pas besoin de verser son sang, littéralement, mais on le verse à travers son sacrifice qui demande plus qu'on ne pourrait pas offrir si on tenait les choses à l'ordinaire. Enfin, c'est ça. Le témoignage tourne autour de ces grands thèmes du sacrifice et même de verser le sang pour l'amour du Christ et de son évangile.
Le témoin est martyr. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Bakita, et c'est le nom de Sainte Joséphine Bakita, une religieuse canossienne d'origine soudanaise, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle a été esclave pendant une grande partie de sa vie, mais a finalement été libérée et elle est vénérée pour sa foi et sa résilience face à l'esclavage et est devenue la sainte patronne du Soudan. Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II en 2000. Père Mouret, je ne sais pas si vous nous entendez mieux maintenant. Je voudrais rebondir sur justement cette question de témoin, quelqu'un donc qui, dans son époque et milieu, a rendu témoignage à l'une ou l'autre béatitude.
Oui, c'est ça, le témoignage exactement des saints, c'est normalement une contradiction aux puissances de ce monde qui veut nier la vérité ou qui ne veut pas que la foi du Christ soit connue ou que la vie morale soit affirmée et que cette soit vécue entre les gens. Et c'est, par exemple, on parle de Sainte Bakita, Sainte Joséphine Bakita, elle est un très bon exemple d'une personne qui a reçu la grâce de la foi et dont dans sa vie, elle a fait donner un rayonnement de gratitude à Dieu parce qu'elle était libérée de l'esclavage, mais aussi elle a reçu la lumière du Christ pour voir que Jésus vraiment est le Fils de Dieu et qu'il voulait suivre le Christ. Elle est devenue religieuse en Italie. Et elle a visité beaucoup de villes et en Italie pour parler de Dieu aux gens. Et son exemple est pour nous une chose brillante de la grâce de Dieu. Moi, je suis très dévoué à Sainte Bernadette, qui était une petite fille qui a reçu la vision de la Sainte Vierge Marie à Lourdes. Et elle a parlé ce que la Vierge a dit. La Vierge a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et grâce à cela, beaucoup de monde a connu cette doctrine qui enseigne que le Sainte-Vierge n'avait pas de péché originel. Mais Sainte Bernadette est devenue religieuse aussi, et elle a donné un exemple de fidélité à Dieu. Alors Dieu nous montre qu'il ne faut pas être une personne importante dans les yeux du monde pour donner le témoignage de foi, d'amour et d'espérance.
Merci. Père Jean-Baptiste, on va parler ici de l'humilité plutôt, la miséricorde, la pureté du cœur, la recherche de la paix, la lutte pour la justice. Je voudrais qu'on parle des béatitudes, qui sont une série de 8 enseignements donnés par Jésus lors du discours sur la montagne. Et là, on le retrouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 10. Donc, les béatitudes sont au cœur de la morale chrétienne. Elles sont largement méditées et enseignées dans la tradition chrétienne. On commémore ces témoins martyrs. Est-ce pour dire que celles ou ceux qui vivent conformément aux béatitudes entreront dans le royaume des cieux?
Justement, je pense que ça, c'est un enseignement très succinct de ce qu'est l'évangile au cœur du monde. Si on parle de ces enseignements, on est en train d'épingler en quelque sorte chaque élément qui peut aider à chaque personne de s'évaluer par rapport à la logique de l'évangile. La logique de l'évangile porte justement la foi à l'exercice d'une vie ou une vie transformée qui va de mieux en mieux se configurer au Christ. En fait, les béatitudes ne sont pas seulement des enseignements donnés par Jésus aux gens, et on peut aussi le dire d'une certaine manière un portrait clair de qui est Jésus dans le monde. Donc, c'est comme si le Seigneur lui-même utilise ces béatitudes pour nous aider à avoir des points clés et clairs qui nous font entrer dans la logique de son évangile. Alors, on comprendra que, par exemple, pour vivre dans cette ouverture à Dieu, cette disponibilité à son esprit, ça demande, par exemple, qu'on soit humble suffisamment. Donc, cette humilité qui va être trouvé et identifié dans la vertu même de la pauvreté évangélique. Et il y a une certaine manière de comprendre qu'on a besoin de Dieu, et donc on est aussi ouvert à la grâce qu'il accorde, et puis on est plus porté à comprendre que sa force est dans le Seigneur que plutôt qu'en soi-même ou en certaines autres assurances que notre société peut proposer. Bien sûr, toutes ces choses peuvent être importantes. Mais en fait, compte tout ce qui est significatif, tout ce qui porte à notre bonheur, est un don de Dieu. Donc, quand on a cette relation avec Dieu, on possède tout. Alors, on a besoin de la paix, par exemple. Si on est, on vit cette vocation à édifier la paix parmi nos frères et sœurs, nous sommes justement les fils et filles de Dieu, et nous le témoignons à travers cela.
Merci.
C'est ça.
Merci Père Jean-Baptiste. La Toussaint, donc une fête religieuse catholique qui commémore les saints et les défunts. Il se passe depuis le 7 octobre un conflit armé entre le Hamas et Israël. Dans des régions affectées par ce conflit, les célébrations religieuses peuvent être, disons, perturbées ou influencées par la situation politique et sécuritaire. Il y a plusieurs noms qui ne figurent pas sur le calendrier julien, qui ont pourtant mené le combat de Dieu en lutte pour un monde humain, libre et juste. Merci au Père Gérard Mouret, au Père Jean-Baptiste Mvoukié, Lionel Lunanila Gahima sur la mise en onde, Eric Manelakis a été avec vous à la présentation. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.